Moi, je suis le serveur.
Point.
Lancez le back-end.
Point, point.
Moi, je fais clignoter mon front.
Point, point, point.
1, 2, 3, 4. Coucou les développeurs et développeuses full stack sentimentales, j'espère que vous allez bien. C'est le... je sais plus quel numéro d'épisode. D'ailleurs, il y a une blague sur le numéro d'épisode, donc si vous avez compris pourquoi c'est rigolo, vous pouvez m'envoyer un petit message à fullstack@zig.fr, S-I-E-G.fr. Je peux vous donner un sticker quand on se croise, si vous trouvez la blague. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, comme ça fait quelques épisodes où je parle de choses au niveau du développement, j'avais quand même un peu envie de revenir sur mon parcours et expliquer pourquoi ce mot, qui est un peu un mensonge, de full stack, est utilisé dans le nom de ce podcast. Je vais faire en plusieurs parties et on va essayer de couvrir un peu le spectre du full stack. La partie back-end, parce que c'est avec ça que moi j'ai commencé. Et j'ai commencé ma carrière en étant développeur Java. J'ai fait aussi un peu de Perl parce qu'il y a une boîte qui utilisait du Perl pour leur truc. Et ça, je trouvais ça un peu dur. Mais Java, c'était assez chouette. Je m'étais même forcé à un moment à utiliser Vim pour coder du Java. Alors qu'on n'avait pas encore les LSP, les trucs comme ça pour faciliter un peu la tâche. Mais ça me permettait d'apprendre en même temps un peu l'arborescence des paquets, des choses comme ça, savoir comment les choses étaient liées. J'avais trouvé ça rigolo. Et en plus, je pouvais pas sortir parce que je connaissais pas la commande. Donc j'étais coincé. Donc ça, Java, donc 2008 à 2010. Ensuite, j'ai fait un visa vacances-travail au Japon, qui était un visa vacances tout court. Et là, je me suis plongé dans Node.js. Un peu tout seul. Alors j'avais déjà fait un tout petit peu de JavaScript avant, mais de voir ce truc apparaître et de pouvoir utiliser ce langage avec lequel j'étais plus proche, pouvoir l'utiliser côté back et puis faire des trucs, j'avais trouvé ça assez foufou, quoi. Ensuite, 2011-2014, je reviens chez Eurelis, l'entreprise précédente, toujours en tant que développeur Java principalement. Et ensuite, entre 2014 et 2018, j'ai travaillé chez Sphere, une SS2I, ESN, boîte de conseil, enfin une des bonnes, parce que c'est souvent critiqué, mais Sphere, même si c'est la seule que j'ai faite, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à toute la négativité qu'on peut voir dans ce genre de boîte, quoi. Allez les voir, ils sont chouettes. Là, côté back, c'était Node, donc professionnellement cette fois. Et puis Go, je ne me rappelle plus à partir de quand j'ai fait du Go, mais voilà, du côté back, j'ai gagné ces compétences professionnelles dans plusieurs langages. Ensuite, 2018-2019, alors ça c'était très court, c'était seulement 3 mois quand on était au Japon, je suis allé chez MetLife où là j'ai refait un peu de Java, mais c'était du Java un peu plus moderne. C'était Java numéro combien, 8 à l'époque, je crois, ce qu'ils utilisaient. Et c'est... Alors, Java, c'était toujours pas le langage dont je me sens très très proche, mais il y avait des choses plus intéressantes que le vieux Java que je faisais au tout début de ma carrière, quoi. Ensuite, à SonarSource 2019-2020, là c'était très très front, hein. J'ai pas vraiment fait de bac, mais c'était du Java, donc j'ai dû ajouter une ligne par-ci, par-là peut-être, mais... Et voilà. Et depuis 4 ans et demi au Cyber Peace Institute, c'est de retour à Go, Node.js et un petit peu de Python. Personnellement aussi, moi j'ai fait un peu de Crystal et de Nim. Je crois qu'il n'y a pas assez de gens qui font du Nim parce que c'est un langage qui est vraiment intéressant. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des langages back. Donc on va passer à la partie front.
Donc moi, en commençant chez ma carrière chez Eurelis, j'ai en tant que développeur Java, moi je trouvais que le Java ça bougeait pas énormément à l'époque. Et c'est aussi le moment où il y a eu la grosse mode des meet-up. Et donc moi je l'ai traîné dans ces trucs-là. Et là c'était un peu l'explosion. Je vois que le web c'est un truc vivant, qu'on peut faire vraiment plein de choses en HTML. Il y a HTML5 qui sort pendant ma période. Il y a un truc qui est tombé. Il y a CSS3, il y a JavaScript qui continue d'évoluer un petit peu. Non, en fait non, parce que avec ma script 2015, c'est sorti dans ma période sphère. Bref. Et chez Eurelis, moi, je fais du JavaScript, je fais du jQuery, je fais du AngularJS. Et c'est un peu la révolution de pouvoir faire plein de trucs en AngularJS. Et c'était intéressant de comprendre que les choses que moi je faisais à la main avant, je peux les faire de façon beaucoup plus rapide avec quelques balises sur mes, avec quelques attributs sur mes éléments, en gros. J'imagine des possibilités assez incroyables pour faire des choses côté front avec AngularJS, quoi. Ensuite, quand j'arrive chez Sphere, là c'est l'explosion du front-end. Mais vraiment. J'ai fait du AngularJS quand je suis arrivé, un peu plus tard sur un projet. Quelques années après, j'ai fait de l'Angular tout court, j'ai fait du React, j'ai fait du Polymer, j'ai fait du Vue, tout ça professionnellement. Ça s'est vraiment diversifié beaucoup, 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 beaucoup. Alors chez MetLife, on a fait du React, SonarSource c'était du React, et Cyber Peace Institute, on est toujours sur principalement du React, mais j'ai fait aussi du Svelte, du Astro. Et récemment, je m'intéresse un peu à Solid parce que j'ai l'impression que c'est un React bien fait. Donc je continue aujourd'hui d'explorer pour essayer de trouver les choses qui me parlent. J'ai passé beaucoup de temps dans des bouquins, dans des meet-ups pour apprendre des choses, voire en partager un peu parce qu'avec Vincent et Damien, on avait monté le meet-up CSS Paris. C'était vraiment une chouette aventure. C'est un peu mort ce truc-là, je crois. C'est dommage. Et CSS, ça m'intéresse toujours. Je me tiens pas mal à jour de ce qui se passe. J'essaie d'en parler un peu à mes collègues pour qu'ils se mettent à jour aussi. Il y a une autre partie dont je voulais parler, c'est la partie qui n'est pas back-end et qui n'est pas front-end. Donc on a cette. Ce truc un peu DevOps ou peu importe les noms que ça a. Donc moi quand j'étais chez Eurelis, on faisait du Java, on avait notre jar, on le mettait sur le serveur en FTP, et puis après on relançait la commande, etc. Enfin, c'était à l'ancienne, c'était rigolo, mais on s'en rendait pas compte qu'on pouvait faire mieux, quoi. Et en arrivant chez Sphere, dans ma première expérience chez AXA, c'est là où, entre 2014 et 2016, que j'ai découvert Docker par mes collègues. Et donc, voir qu'on peut faire autrement pour construire son application, permettre de la redistribuer, permettre de la déployer et de la lancer un peu n'importe où, quoi. Donc, chez Sphere, c'est aussi le moment où j'ai plongé un peu dans tout ce qui est cloud, donc l'ordinateur, mais qui est chez quelqu'un d'autre, avec un tout petit peu d'AWS, avec du GCP. Quand j'étais chez MetLife au Japon, c'était rigolo les déploiements parce que déjà le code, parce qu'il fallait coder sur une machine, pousser sur un dépôt, prendre la machine de la boîte, récupérer le code et la pousser sur un autre dépôt. Et c'est ce truc-là qui était utilisé pour ensuite faire les déploiements et tout. Enfin, c'était un sacré fouillis. C'était rigolo. Mais c'était un peu à l'ancienne quand même. Chez SonarSource, comme j'ai fait que du front, j'ai pas participé au truc de déploiement parce que j'étais juste là pour faire clignoter des boutons. Donc voilà. Et au Cyber Peace Institute, quand on est arrivé, il y a moi et un certain nombre de collègues il y a 4 ans et demi, c'était le début de l'ère développement au Cyber Peace Institute. Donc le chef un peu technique, il est arrivé, qui est aujourd'hui mon chef à moi, coucou chef. Lui était arrivé quelques mois avant, mais la partie dev vraiment en novembre 2020. Et donc, il a fallu tout faire. Il a fallu tout faire. Donc, on a notre GitLab. Donc, on a dû faire la partie intégration continue et déploiement continu. On a fait plusieurs clouds, donc GCP en Suisse, Exoscale en Suisse. Là, on est en train de jouer un tout petit peu avec Scaleway pour voir un peu ce que ça donne. Ça nous a permis aussi, parce que c'était un choix qu'on avait fait au départ, de plonger dans Kubernetes. Donc, on a vraiment pleuré pendant quelques mois jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Donc, on a fait du Kubernetes, du Helm. J'ai joué un tout petit peu avec Argo CD, mais c'était un peu compliqué parce que sur GCP ça n'a jamais marché comme je voulais. Je sais pas pourquoi et c'est pas grave. Et voilà. Donc, ce lien entre les devs et les ops, parce que moi je suis pas ops, mais c'est la partie, le lien entre les deux, je l'ai quand même approché depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi une partie qui est souvent liée au back-end, ce sont les bases de données. Donc, il y a très 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 longtemps, à l'université, j'ai fait du Oracle. Mais je crois que c'est Oracle, c'est le truc qu'on voit en université pour apprendre, et après personne ne l'utilise parce que ça coûte trop cher. Et puis comme Oracle, c'est une boîte avec que des avocats et pas vraiment de la technique, c'est un peu compliqué. Donc les MySQL, les MongoDB un tout petit peu, pas qu'un tout petit peu d'ailleurs. Donc du PostgreSQL et depuis l'institut là j'ai fait varier le nombre de bases de données. On a fait du ArangoDB, on fait un petit peu d'Elasticsearch. On a failli faire du Neo4j, mais finalement on n'est jamais allé aussi loin. Autre chose dont je voulais parler, c'est aussi les systèmes. Parce que à l'époque, au tout début, je développais sur Windows et je déployais sur des serveurs où il y avait du Linux. Rapidement, moi, je me suis mis à Linux aussi. Chez Sphere, par exemple, on pouvait choisir soit un PC, soit un Mac. Moi, j'ai pris un PC, c'était un Dell. Bah, c'était Linux direct, quoi. Et j'ai mis Arch Linux dessus. Arch Linux, c'est celui où on ne sait jamais si le système va marcher quand on fait une update. Et en plusieurs années, avec Arch, j'ai eu zéro problème, quoi. Et les déploiements, bah, c'était soit du cloud. Et les trucs sur le cloud, c'est aussi des Linux, hein. Chez SonarSource, un peu pareil. À l'Institut, bah, nous, on a des Mac. Et on doit, bah, quand on déploie, c'est sur des machines Linux aussi. Donc, c'est vrai que je me suis très beaucoup éloigné de Windows. Ça fait quelques années, donc depuis le 19, que je travaille professionnellement sur des Mac, même si je préférais travailler sur un PC avec un Linux. Mais voilà, je suis quand même à l'aise avec Mac et Linux, que ce soit en tant qu'utilisateur ou pour aller sur les serveurs. Là où je voulais en venir en vous parlant de tout ça, c'est un peu long, mais c'est que le full stack, c'est pas back-end et front-end. Le full stack, c'est du back-end, c'est du front-end, c'est de la base de données, c'est du système, c'est du cloud. Même plus loin, c'est du monitoring, c'est du test. J'ai pas parlé des tests, ça pourrait faire un sujet d'un prochain épisode. La tuyauterie pour l'intégration continue et le déploiement continu. Ah, j'avais un autre truc qui me venait en tête et je le perds. Ça veut dire. J'ai dit monitoring ou pas? Je sais pas. Ça veut dire suivre son application quand elle est en prod. Ça veut dire faire de la documentation. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Ça fait pas mal, non? Je sais pas comment on définit full stack vraiment. Dans la tête des, je pense, recruteurs et des boîtes, ça veut dire back-end et front-end. C'est très réducteur. Très très réducteur et c'est un peu dommage. En fait, après, avec toutes ces années, je sais pas, j'ai commencé en 2008, on est en 2025, je compte pas, je suis pas vieux, je suis un peu expérimenté. Je remarque que j'ai pas fait un an d'expérience 17 fois. C'est vraiment une carrière où j'ai découvert des choses diverses et variées et où j'ai touché à vraiment plein 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 de sujets. Et le full stack, c'est ça, je pense que c'est la personne qui va toucher à plein 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 de sujets. Et ça se limite pas à back-end et front-end. Je ne sais pas comment terminer cet épisode. À l'institut, là, alors c'est assez rigolo parce qu'on est basé à Genève, et je pense que la taille de l'équipe fait qu'on est vraiment un couteau suisse en tant que développeur à l'institut, parce qu'on doit faire du back, faire du front. Je vais pas répéter toute la liste, mais faire les déploiements, surveiller son application. On déploie beaucoup sur Vercel, donc ça veut dire qu'on doit aussi configurer Alors, on ne le fait pas tous, mais on peut configurer les noms de domaine, voire les sous-domaines, et les entrées DNS. En fait, le panel des choses à faire, il est très, très, très varié. Et c'est assez rigolo parce qu'on voit souvent dans les annonces de petites boîtes ou de startups qu'elles cherchent un peu ce mouton à cinq pattes qui peut tout faire. Avec mes 16-17 ans d'expérience, je commence à m'approcher de ça, de ce mouton à cinq pattes qui est entre guillemets full stack et qui peut faire plein de choses, quoi. On n'est pas juste là pour pisser du code, on est là pour faire vivre notre code, le mettre en prod, le suivre, vérifier qu'il continue de tourner et de la bonne façon. Et en plus de la partie full stack, je crois que c'est aussi une partie du métier de développeur, de voir plus loin que son code, de suivre son application du début à la fin. J'en ai pas trop parlé, mais du début, ça veut aussi dire parfois participer aux spécifications et des choses comme ça, et à la fin, faire de la formation sur son application, faire de la documentation, des tutoriels, etc., etc. Voilà. C'est un épisode un peu compliqué parce que j'ai pas préparé, c'était ma vie, mon œuvre, back-end, front-end, DevOps et autres, pour expliquer ce que c'est un peu le full stack en moi. Si vous voulez m'écrire, est-ce que vous êtes full stack? Qu'est-ce qui manque? De quoi je dois parler? Fullstack@zig.fr. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Codez bien!